à la rencontre des deux cycles, le cycle des Regalim, Pessah, Shavuot, Sukkot, et le cycle des trois fêtes dans le septième mois, le Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Et donc, Sukkot va, en fait, avoir des caractéristiques des deux. Dans la Torah, les Anshe Knesset HaGdola, pardon, dans la Tfila, ils nous ont dit que quand on allait parler de Pessah, Shavuot, Sukkot, on allait les caractériser en disant de Pessah que c'est Zman Chérotenu, de Shavuot que c'est Zman Matan Torahenu, et que de Sukkot c'est Zman Simchatenu. Et le Rambam va écrire que à Sukkot, bien qu'en réalité il y a une mitzvah de se réjouir lors des trois fêtes, des trois régalim, qui est dans le passage, ça concerne les trois régalim, il y a à Sukkot une simcha yetera, une simcha supplémentaire vient s'ajouter à la simcha standard. Tout le problème, c'est de savoir de quelle simcha est-ce que parle le Rambam. Alors, en fait, naïvement, si on lit le Rambam, on voit qu'après avoir dit cela, le Rambam dit, Ketzad ayu osim, comment est-ce qu'on faisait? Et il nous raconte, je fais entrer Marine, bien qu'en fait, il y a quelqu'un dans la porte. Alors, si on regarde naïvement ce qu'écrit le Rambam, il nous décrit le fameux tikkun gadol qu'on a fait. Il raconte que Erev Yom Tov, donc avant le premier jour de Sukkot, on installait à l'intérieur du Beth Amikdash une galerie pour les femmes, en fait. Les femmes puissent voir d'en haut ce qui se passe en bas. On les met dans une galerie parce qu'on ne veut pas que les hommes et les femmes se mélangent. Et la Gemara dit qu'on a envisagé toutes les autres solutions, devant, derrière, etc., les hommes en haut, les femmes en bas. Ouais. Finalement, on est tombé sur cette solution, les femmes en haut, les hommes en bas. Donc c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel parce qu'on change momentanément, provisoirement, l'architecture du Beth Amikdash, ce qu'on n'a évidemment pas le droit de faire en temps normal. Mais bon, pour la fête. Et la fête, elle commence le lendemain du premier jour de Sukkot. Vous savez, Sukkot, commençait la fête. Cette fête, elle vient de quoi? Elle vient de ce que, normalement, quand on amène un corban, en général, disons, stam corban, c'est une viande, par exemple, un agneau, ou comme ça. Quand on amenait de la viande, on amenait aussi toujours en même temps du végétal, c'est-à-dire une crêpe, du minéral, du sel, il y avait alcool, corban, chatakrib, melach. On met toujours du sel. Et ça, c'est le solide. Et il y avait du liquide. Le liquide, c'était du vin. Donc, on faisait des libations sur l'autel, sur le misbéar. Ça consiste à verser du vin sur le misbéar. Donc, il y avait le liquide et le solide. Et dans le solide, il y avait animal, végétal, minéral. Et il y avait la kavana de celui qui apporte le korban, C'est la dimension humaine. À Soukhot, il y avait quelque chose de particulier, c'est qu'en plus de ces libations de vin, on faisait aussi des libations d'eau. Où est-ce qu'on prenait l'eau? On avait qu'à ouvrir le robinet, non? Non. Ils allaient puiser l'eau, évidemment, dans une petite rivière qui passait en bas, là-haut, près du Beth Amikdash. Et l'opération de puiser l'eau se faisait avec un énorme tralala, quoi. On fait beaucoup d'emphase, parce que d'une certaine manière, comme disait Razal, quand les Bnei Israël puisaient de l'eau, là-bas, ils puisaient du Ruach HaKodesh, c'est une élévation. L'autre situation où on fait quelque chose avec tellement de pub, c'était quand on allait couper le homer. On allait couper le homer pour le Corban à homer. Là aussi, on faisait les choses avec grande publicité. Et donc là, ici, il s'agit de la publicité de ce que ça s'appelle Shoeva. L'Ishov, ça s'appelle s'épuiser. Et la Simcha qui allait avec ça, ça s'appelle Simchat Bet HaShoeva. C'est une Simcha dont on a à peine à s'imaginer qu'elle avait lieu dans le Beth Amikdash. Il y avait là-bas des jongleurs, des cracheurs de feu, des danseurs, des chanteurs. J'ai pas assez d'imagination pour dire ce qu'il y avait aussi. Et alors, comme il disait, ça commençait après le Corban Tamid Shel Ben Arba'im, après le Corban de qui était le dernier corban qu'on amenait dans la journée, corban à Mincha, après Mincha, et commençait la fête, et ça durait toute la nuit. Et ça, il le faisait tous les jours de Chol HaMoed. Donc, à partir du premier jour de Chol HaMoed, qui était le deuxième jour de Sukkot, jusqu'à la veille du dernier jour de Sukkot, qui était Yom Tov. Ça, c'était la Simchat Beit HaShoeva. Et on a l'impression que la Simcha supplémentaire dont parle le Rambam, c'est de cette Simcha-là qu'il parle. Et il y a effectivement des commentateurs qui disent que c'est de cette Simcha-là qu'il parle. Le petit problème, c'est que le Rambam parle de Simcha avant d'avoir défini Simchat Beit HaShoeva, donc comme s'il y avait une Simcha supplémentaire qui était liée à Sukkot, à la fête de Sukkot, et pas à la Shiva, au fait qu'on allait puiser de l'eau. Donc certains vont essayer d'expliquer de quel genre de Simcha il s'agit, on y viendra. Il y a un Rambam qui parle de Nissim. Alors, pour qu'on fasse le lien. Dans les mitzvot, il y a pour qu'on fasse, quand on fait une mitzvah, il faut avoir a priori l'intention de faire la mitzvah. Dire je fais les choses parce que je fais une mitzvah. Mais par contre, je n'ai pas besoin d'avoir de kavana sur ce que représente la mitzvah. Sauf quelques exceptions. Tzitzit, tfilin, et la soukha. Dans la soukha, le passouk nous dit pourquoi on fait la soukha. Leman yidou de rotechem, mais la mitzvah de soukha pour que vos générations, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous sachions qu'Akadosh Baruch Hu a installé les Bnei Israël dans des cabanes quand il les a sortis d'Égypte. Cette kavana, ce leman yedu dorotechem, etc., a priori, d'après certains, d'après Mishnah Boura, c'est a priori, d'après d'autres, c'est même Khatrila, c'est tellement fondamental qu'éventuellement, si on ne l'a pas fait, on n'a peut-être même pas, on n'a pas, on s'est pas acquitté de la mitzvah de ce cas. Il faut penser à ça quand on s'assied dans la soukha. Et en général, pour le penser à coup sûr, le mieux c'est de le dire. Donc, en plus de la bracha dont on fait quand on mange, on s'assied dans la soukha, faut dire le man yedou de rotechem. Je m'assieds dans la soukha pour accomplir le passouk qui dit, enfin, la volonté d'Hachem qui dit que je veux que vous fassiez cette mitzvah, le man yedou de rotechem, etc. On peut le dire en français aussi, hein, ça marche. Ça marche aussi. Qu'on dit? On dit que on se souvient de quelque chose qu'Hachem nous a fait quand on est sorti d'Égypte. Bah, s'il faut se souvenir de quelque chose qui a eu lieu à la sortie d'Égypte, et on devrait faire ça tout de suite après Pessah, non? On est sorti d'Égypte et on était dans les cabanes. Pourquoi est-ce qu'on fait Sukkot en automne? On doit faire Sukkot au printemps. La question est bonne, merci d'avoir posé. Le Gaon de Vilna répond. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, les fameuses Soukhot dont on parle, il y a dans la Gemara une discussion. Est-ce qu'on parle de véritables cabanes ou est-ce qu'on parle des nuées de gloire qui enveloppaient le clan Israël? Le clan Israël, il a vécu dans une bulle pendant 40 ans. Bulle dans laquelle il avait à manger de la manne, il y avait de l'eau du rocher de Myriam, etc., rien ne s'usait, etc. Il était complètement pris en charge et complètement protégé par ces nuées qu'il y avait devant, au-dessus, derrière. Ces nuées qui enveloppaient le clan d'Israël, elles étaient là à la sortie d'Égypte. Mais juste après la sortie d'Égypte, 50 jours après la sortie d'Égypte, comme vous savez, il y a eu Matan Torah. Et tout de suite après Matan Torah, il y a eu le veau d'or. Et quand les Bnei Israël ont fait le veau d'or, vous vous souvenez, Hachem avait dit à Moshe, laisse-moi, je vais les détruire ce clan d'Israël, et je vais commencer quelque chose de nouveau avec toi. À quoi Moshe Rabbeinu a répondu, je ne suis pas candidat. Et si tu ne leur pardonnes pas, tu peux m'effacer de ton livre. Et donc Moshe Rabbeinu a discuté, il a négocié, et il a obtenu d'Hachem que Hachem ne détruise pas le clan d'Israël. Certains disent qu'il a obtenu un pardon complet. D'autres disent, le Gaon de Vilna dit en particulier, qu'il n'a obtenu qu'un sursis. Sursis qui est tombé au moment des Meraglim, au moment des explorateurs. Quand les Bnei Israël se sont complètement disqualifiés, les nuées, elles ont pris leur envol, elles sont parties, les nuées. Donc là, l'Israël n'était plus protégé par les nuées. C'est très étrange parce que on ne nous dit pas qu'il leur est arrivé quoi que ce soit. Et ça a duré longtemps. puisque il y a tout le temps qu'il a fallu pour que Moshe négocie avec Hachem, qu'Hachem pardonne. Il n'y avait pas de nuée pendant tout ce temps-là. Beaucoup, peut-être, il a quand même veillé à ce que il soit pas détruit à ce moment-là. Et les nuées sont revenues à Kippour. Kippour, c'est le jour où Hachem a pardonné. Le pardon s'est traduit par les louchot que Moshe Rabbeinu a rapportées, mais aussi par le retour des louchot, des nuées de gloire. Anané Kavod. Et du coup, nous vivons sur les deuxièmes Anané Kavod. Nous vivons sur les deuxièmes tables. Nous vivons sur tout ce qui a été donné, redonné par Hachem. Et par conséquent, bien que nous disions quand nous sommes que c'est les nuées étaient là quand nous sommes sortis d'Égypte. Mais entre-temps, elles ont disparu, elles sont revenues, et nous, on commémore les deuxièmes louchot, en quelque sorte. Les deuxièmes Anané Kavod, les deuxièmes nuées. C'est pour ça qu'on fait Soukhot à cette époque-là, tout de suite après Kippour. Peut-être qu'il faut dire tout de suite aussi que Soukhot, donc caractérisé en particulier par le fait que on va habiter dans la souka. La construction de la souka, elle a commencé tout de suite, c'est-à-dire qu'on a commencé par Moshe Rabbeinu a donné des ordres au nom d'Hachem pour qu'on rassemble les matériaux nécessaires pour construire le Mishkan. Il faut comprendre que quand Hachem a donné l'ordre de construire le Mishkan, ça fait aussi partie, le Mishkan fait partie du processus de pardon. Dans le pardon, d'Ibn Israël, il y a aussi, c'est, j'ai pardonné, mais il y a une condition, mais désormais vous allez construire un Mishkan. Ça fait partie du processus. Les Bnei Israël vont effectivement construire ce Mishkan. Et qu'est-ce que c'est que le Mishkan? Alors, c'est évidemment un espèce de mini Beth Amikdash en kit. Puisqu'on va devoir le démonter et le remonter selon les déplacements du clan d'Israël. C'est pas terriblement évident tout ça, pour la bonne raison que, enfin, a priori, à ce moment-là, la trajectoire, enfin, le chemin pour aller de là où étaient les Bnei Israël, et au pied du Sinaï, aller en Eretz Israël, ça durait 11 jours. Alors, malgré tout, 11 jours, il se déplace, et le Mishkan, il fallait aussi le déplacer, même si c'était seulement pour 11 jours. Donc, il devait être en kit pour qu'on puisse le transporter. C'est quoi le Mishkan? C'est donc la résidence, je dis le mot Mishkan, la résidence d'Hachem. C'est-à-dire Hachem est présent et Hachem veut être présent au sein du clan d'Israël. Alors, c'est une situation qui est réminiscente de quoi? Elle est réminiscente du Har Sinaï. voire Sinaï, Hachem était présent au sein du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était autour du Sinaï. Et là, les Israël vont camper autour du Mishkan. Le Ramban dit que le Mishkan, c'est un Sinaï portatif. Ça veut dire que il faut pas considérer le Sinaï comme un événement. Le Sinaï, c'est un processus. Et ce processus est un processus éternel. Qu'est-ce que c'est le Sinaï? C'est le don de la Torah. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah écrite et la Torah orale. Il a tout reçu au Sinaï. La façon dont il a reçu la Torah orale, c'est pas très clair, mais on peut dire qu'il l'a reçue d'une façon un peu compacte, si vous voulez. Je donne toujours l'exemple de, pour qu'on comprenne un petit peu les choses, c'est que si vous avez un éventail et qu'il est fermé, alors vous regardez, vous voyez un peu les couleurs, éventuellement sur la tranche, là, et peut-être une idée de une partie du motif. Mais vous ne verrez tout ça seulement quand l'éventail sera parfaitement ouvert. Moshe Rabbeinu est à l'école de Rabbi Akiva, comme il a demandé de voir ce Rabbi Akiva dont Hachem lui a dit que c'est pour lui que Hachem met des petites couronnes sur les lettres de la Torah. Parce que ce Rabbi Akiva, il va être Doresh, Tilet, Tilot, il va déduire des montagnes de halakhot de ces petites couronnes. Alors, je vais lui dire, ben, je voudrais bien le voir, ce bonhomme. Donc, quand Hachem lui a montré, d'abord, Moshe est allé à l'école, enfin, il allait écouter un shiur de Rabbi Akiva. Et il n'a rien compris. Jusqu'à ce qu'un élève pose la question à Rabbi Akiva, il lui dit, mais d'où tu sors tout ça? Et que Rabbi Akiva lui réponde, mais ça c'est une halakha de Moshe Missinaï. Alors du coup, pour Moshe Rabbeinu, ça a fait tilt. C'est-à-dire qu'il avait les deux extrémités du sujet, il entendait ce que Rabbi Akiva en disait, et il a compris quand on lui dit que c'est une halakha de Moshe Missinaï, vraiment, il a dû comprendre de quelle halakha il s'agissait, et du coup, il a fait le chemin entre, il a compris qu'il y avait un chemin, c'est-à-dire tout un motif, des couleurs et tout un motif pour arriver jusqu'à la formulation de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est celui qui nous a donné toute la Torah orale que nous avons quasiment. Toute la Torah orale, c'est Rabbi Akiva qui l'a inventée. Il a transmise par quelques élèves, mais c'est Rabbi Akiva. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le don de la Torah n'est pas terminé au Sinaï. C'est vrai qu'on a tout reçu au Sinaï, mais néanmoins, la Torah orale, elle va être développée. Bon, ça veut dire qu'à la limite, on va ouvrir l'éventail. Et pour l'ouvrir, il va falloir la chorma de tous les chachamim dans toutes les générations qui vont produire cette Torah. Donc, le processus est un processus qui continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, quand on étudie la Torah, certains produisent de la Torah. Il y a des choses qui bougent, qui avancent, qui éventuellement se modifient un peu. On tient compte de certaines circonstances, c'est différent dans ce pays ou dans cet autre pays, sous ces latitudes-là, des problèmes techniques résolvent, ou des problèmes et posent d'autres problèmes, etc. Tout ça, c'est de la Torah. De façon compacte, elle était déjà dite à Moshe Rabbeinu, mais elle va probablement elle s'expose en explosant, en quelque sorte, au cours des générations. Donc, si je dis que le Mishkan, comme le Rambam dit, c'est un Sinaï portatif, ça veut dire que cette présence d'Hachem, ça veut dire que, il y a Hachem qui est présent dans le Mishkan, ça veut dire qu'on va développer la Torah en étant toujours devant Hachem. C'est-à-dire, un peu comme quand on dit qu'Abraham Avinu marche devant Hachem, par opposition à Noach qui marche avec Hachem. Avraham Avinu marche devant, c'est-à-dire il invente et il vérifie est-ce que ce que j'ai inventé là est toujours cohérent avec ce qui avait été accepté, que j'ai inventé, qui a été accepté par Hachem, qui est devenu Torah de base. Est-ce que le pas suivant que je suis en train de faire, est-ce qu'il est cohérent avec ce qui a déjà été établi? C'est comme ça se construit petit à petit. La Torah orale, c'est comme ça aussi. Et il faut dire la vérité, c'est que même la Torah écrite, elle n'est pas finie non plus. Parce que nous ne pouvons pas lire, nous ne savons pas lire la Torah écrite sans une Torah orale qui nous dise comment il faut lire. Bon, qui vous dit quelle voyelle mettre et où mettre les voyelles. Si on n'a pas une tradition qui nous dit comment il faut voyelliser les mots, comment il faut lire en fabriquant des phrases qui ne sont pas faites parce qu'il n'y a pas de point et de virgule. Et donc, on a besoin d'une Torah orale pour nous dire comment lire la Torah écrite. Et cette Torah orale que nous avons, j'ai déjà dit plusieurs fois, que cette Torah orale, elle nous dit comment on doit lire la Torah le Shabbat à la synagogue. Mais cette Torah, elle ne nous dit pas obligatoirement. Elle ne nous dit pas que c'est la seule lecture possible. Il y a d'autres lectures possibles de cette Torah. Et de fait, il y a des drachot de Chazal qui enjambent une séparation entre les psukim. C'est-à-dire que dans la lecture de la Torah, le Shabbat, on met un point ici. Et les Chachamim viennent et font une dracha en prenant un passou, un mot qui est dans le verset, dans un certain verset, et un deuxième mot qui est dans le verset d'après. Il s'occupe pas du fait qu'entre les deux, dans la lecture du Shabbat, il y a un point. Et tu peux pas lire, tu peux pas les. Ces deux mots vont pas ensemble. Ils sont séparés par un point. Chazal considère que il y a une lecture qui est la lecture de la lecture. La lecture du Shabbat, la lecture de la standard, si vous voulez, mais que dans les drachot, eux savent quand, comment on peut dire les choses différemment. Donc, d'une certaine manière, même la Torah écrite, elle reste ouverte d'une certaine manière. Elle n'est pas complètement figée. La graphie des consonnes est figée. Là, on n'a pas le droit de changer. Mais la voyellisation, elle n'est pas figée. Et le partage de ce texte en phrase, pas figé non plus. Donc, tout ça, c'est cette idée de Hachem a demandé que, d'après le Ramban, c'est le Sinaï. Tout ça, c'est le don de la Torah. La Torah est sans arrêt en train de nous être donnée. Et ça, c'est la condition du pardon de la faute, donc la condition d'existence du peuple d'Israël. Vous savez, le pardon, ça veut dire, Hachem a décidé de ne pas détruire le peuple d'Israël. Mais c'est à ce prix-là. La construction de la Souka, qui a lieu juste après Yom Kippour, elle est réminiscente de la construction du Mishkan. Il y a quelque chose dans la Souka qui nous rappelle la construction du Mishkan. C'est-à-dire, le Mishkan, c'est la résidence d'Hachem. Donc dans la Souka, il y a quelque chose qui rappelle la présence d'Hachem. Ben, c'est le Sekar, justement. Le nom de la Souka, le nom de la fête, c'est au pluriel. La Souka, elle a son nom du Sekar, du toit. Bon, les mechitzot, les parois, on peut les faire un peu comme on veut. Ça peut être du béton armé. Ça peut être éventuellement des poteaux avec des fils de la ficelle, ficelle tendue avec moins de 3 tefachim, moins de 30 cm d'écart entre deux ficelles, d'accord? Donc sur 1 mètre, vous mettez 3 ficelles, 4 ficelles, c'est une mechitza. C'est un mur. Faire un mur en tissu, etc. Bon, alors, on veut pas qu'il faut peut-être le bloquer pour que ça s'envole pas, etc. Mais bon, c'est une mefitzot. On veut. Par contre, le scar, c'est très précis. Bon, ça doit être des branchages. Selon les latitudes, c'est du sapin, c'est du bambou, c'est des palmes. C'est toutes sortes de choses. On peut faire aussi avec, si vous avez toutes sortes de très petits morceaux de tissu, vous pourriez faire un toit avec des petits morceaux de tissu. Ils sont suffisamment petits pour pas être Mekabel Touma, donc on pourrait faire, et si vous n'êtes pas pauvre, sinon même les petits morceaux pour les pauvres, ça a de la valeur. Donc c'est Mekabel Touma. Mais on pourrait imaginer un toit aussi comme ça. Et il y a un travail qui est fait dans la Gemara pour imaginer une sorte de solution, une sorte de forme de soukhot. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait une soukha dans un toit en pente ou dans un toit, une coupole, etc. Toutes ces situations-là, ils demandent, et puis, qu'est-ce qui se passe si le scar n'arrive pas jusqu'au mur, etc. Tout ça, on discute dans la Gemara de toutes ces questions-là. Et on parle de. Donc, c'est quoi la souka? La souka, c'est un toit qui nous protège du soleil, mais pas de la pluie. En fait, dans le Zohar, la souka, elle est appelée Siluta de Mehemnuta. Siluta, vous entendez dans Siluta Tsel, qui veut dire l'ombre, de Mehemnuta, de la Emouna, l'ombre de la confiance en Hachem. Donc, le but de l'exercice, c'est de produire de l'ombre. La cachérisation d'un scar, c'est la grande règle, c'est le scar doit faire plus d'ombre que de lumière. Ça, la condition, pour que ça soit un scar cachère. Ça, c'est la notion de scarf. Et donc, il y a une fragilisation par rapport à Hachem, bon, par rapport au ciel. Il se fragilise complètement. Et on est dans une situation de précarité, si vous voulez. On est... Mais il y a des dynimes tout à fait particuliers. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'existe dans aucune autre mitzvah, qui est que si vous êtes dérangé, vous pouvez rentrer chez vous. Ça veut dire que s'il fait trop chaud dans la soukha, vous pouvez rentrer chez vous. S'il fait trop froid, vous pouvez rentrer chez vous. S'il y a trop de moustiques, vous pouvez rentrer chez vous. Si dans votre soukha, il y a quelqu'un qui a une tête qui vous revient pas du tout, et que vous êtes mal à l'aise dans la soukha avec cette personne, vous pouvez rentrer chez vous. Donc, ça s'appelle mitztaer. On souffre, et les différentes sortes de souffrances sont énumérées dans la halakha. Vous pouvez rentrer chez vous. Donc, il faut choisir avec qui on est dans la soukha, parce que si on est mal à l'aise, alors on n'accomplit pas vraiment la mitzvah de soukha. La soukha, c'est un endroit pour être à l'aise. C'est un vieux monsieur avec lequel, dans ma jeunesse, j'étais dans une soukha. Il me disait, moi, vraiment, je suis à l'aise. Ben, je suis tout seul, ma femme est à la maison. Et j'ai transporté toute ma nourriture, etc. Bon, il fait froid, on est mal à l'aise, on est serré, il y a trop de monde, etc. Non, mais je suis vraiment à l'aise. Il m'a dit ça pendant des années. Enfin, il est revenu toutes les années dans la soukha. Silouta de Mehemnouta. C'est l'araméen que vous parlez tous les jours. Pardon? L'ombre de la Emouna. Ça veut dire, c'est l'ombre qui est faite et nous avons confiance. Donc ça c'est la soukha. Donc c'est réminiscent de la construction du Mishkan. Et par conséquent, vous avez dans soukha une dimension qui a à voir avec la kapara. Puisque le Mishkan est un des éléments de la Kapara du Yom Kippour. Donc ça, c'est le côté Sukkot qui fait partie des trois fêtes du mois de Tishri, du septième mois. Alors, c'est loin d'être toute la contribution de Sukkot à la aux trois fêtes en question. Il y a cette fameuse mitzvah de la simcha. Alors, je vous ai dit, certains disent que la simcha dont parle Rambam, c'est simcha de Beit HaShoeva, mais je vais apporter un autre enseignement, bien que moi j'ai lu chez Rav Yitzhak Kouter, mais je pense qu'il existe ailleurs aussi. Il dit la chose de la manière suivante. On a l'habitude de dire que l'homme, l'être humain, est un mini-cosmos, un monde en petit. Lui, il disait, il faudrait peut-être plutôt dire le contraire, dire que le monde est un homme amplifié, une forme, c'est une forme humaine, en fait. Bon. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? C'est que il y a donc une comparaison entre l'homme et le monde. Le monde, c'est le lieu de l'homme, le lieu dans lequel l'homme peut vivre. Il y a dans le monde un lieu qui appartient au monde, qui est un lieu dans lequel l'homme ne peut pas vivre. Ce lieu où l'homme ne peut pas vivre, c'est l'eau. L'homme ne peut pas vivre dans l'eau. D'accord? Nous ne sommes pas capables de vivre dans l'eau. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, l'eau, c'est un non-monde, c'est-à-dire c'est pas inclus dans le monde. Par le monde, j'entends le lieu qui n'est pas inhospitalier de façon radicale pour l'homme. Si je cherche le parallèle de l'eau dans le corps humain, pour l'être humain, alors, qu'est-ce qui est la caractéristique de l'être humain par rapport aux autres créatures? Qu'est-ce que vous diriez pour caractériser un humain par rapport aux autres créatures? Le? Le?
La
Rire, oui. Certains disent c'est le rire. Lui, il propose de dire c'est la possibilité de choisir. C'est-à-dire, le reste de la création est soumis aux lois, disons, aux lois de la nature, si vous voulez. Il n'y a pas de choix possible. Les seuls qui peuvent vraiment choisir, ce sont les hommes. Les êtres humains peuvent choisir. Ils ont des lois, mais une partie des lois, en tout cas, ils peuvent ne pas les respecter. Il y a des lois qui s'imposent à eux. On ne peut pas décider de ne pas respirer. Bon, c'est des lois. Mais il y a des lois, beaucoup de lois, les lois de la Torah, par exemple. On peut décider de ne pas les respecter. Il y aura des conséquences, mais on peut décider. Donc, chercher quelque chose qui n'est pas vraiment humain, une situation humaine, une situation où il n'y aurait pas de Bechira. Il n'y aurait pas la possibilité de choisir. Cette situation-là, elle existe, mais elle n'existe pas dans le monde habituel. C'est la situation qu'il y aura dans Olam Haba, ou alors il n'y aura plus Yetzer Hara, donc on n'aura pas la possibilité, il n'y aura pas de tentation de choisir autre chose, il n'y a que le bien qui viendra. Donc, Olam Haba, comme étant le lieu de la non-Bechira, c'est aussi un lieu de ce qu'on appelle Olam HaYedia, le monde de la connaissance parfaite, qui fait que j'ai plus le choix. Si je connais exactement les choses, je ne peux plus choisir. Donc le pendant, si vous voulez, de Olam Haba, c'est l'eau dans le monde. Donc, quand on s'occupe d'eau, on a l'habitude de dire que l'eau, dans le Midrash, l'eau, c'est la Torah. Parce qu'il y a aussi quelque chose dans la Torah. La Torah, normalement, on ne devrait pas se soustraire à la Torah. Parce que la Torah, c'est notre loi propre. Nous sommes fabriqués d'après la Torah. La Torah, c'est le plan du monde et nous appartenons au monde, donc nous obéissons au plan du monde. Le plan du monde, c'est la Torah. Donc, en vérité, d'une certaine manière, la Torah, elle n'a pas de vrai Bechira normalement. Parce que, oui. Le oxygène, non, mais l'oxygène, c'est pas un libre arbitre, mais on a besoin d'oxygène manger pour survivre, effectivement. Mais ce qui est le propre, disons, de l'humain avec la dimension spirituelle, etc., c'est la Bechira. Et l'oxygène, c'est une... Il faut aussi qu'on mange. On est obligé de manger, etc. Tout ça, on n'en tient pas compte. C'est purement matériel, si on veut. Mais dans la dimension humaine, la singularité humaine, les animaux aussi doivent avoir de l'oxygène et ils doivent manger, etc. Mais ils n'ont pas la prière. Les autres créatures n'ont pas la Bechira. Nous, on a la prière. C'est ce que la singularité humaine. Ceci étant, il y a une Mishnah qui dit que en dehors de Rosh Hashanah, il y a encore d'autres moments où nous sommes jugés. Nous sommes jugés sur les céréales à Pessah. Nous sommes jugés sur les fruits des arbres en Shavuot. Et nous sommes jugés sur l'eau à Sukkot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Sukkot, il est décidé quelle sera l'allocation totale d'eau pour le monde, pour l'année à venir. Comment cette eau-là, cette quantité d'eau, se répartira dans le temps, dans l'espace, ça dépend des hommes. C'est-à-dire que cette eau, elle peut être sous forme de tsunami. Elle peut être aussi telle que chaque goutte d'eau tombe exactement au bon endroit et au bon moment. Et entre les deux, vous avez tout le spectre, tout l'éventail la façon pour l'eau d'arriver dans le monde, à cet endroit, à cet autre endroit. C'est pour ça que Soukhot, c'est une fête qui a à voir avec l'eau. C'est pour ça qu'il y a ces fameuses libations à Soukhot, de l'eau. C'est pour ça que dans la deuxième mitzvah, dont on n'a pas encore parlé, qui est la mitzvah des Arba Minim, il y a des définitions des plantes qui ont à voir avec l'eau, le cédrat, le hétrog, il pousse à Kolmaïm. Il y a le saule pleureur qui pousse pour de l'eau. Mais surtout, dans la mitzvah, dans l'accomplissement de la mitzvah qu'on fait avec les Arba Minim. Arba Minim, c'est donc trois espèces qui sont attachés en un bouquet, plus un cédrat qui n'est pas dans le bouquet, et on tient les trois espèces dans la main droite, puisqu'il y en a trois, c'est plus important, et l'étrogue dans la main gauche, et on les met côte à côte. Donc on les prend, sur la table, vous les prenez. Certains disent qu'avec ça, à l'avoir pris en main, on a déjà la mitzvah est terminée. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire avec, on a l'habitude de faire avec. On est yotzé de la mitzvah même si on ne le fait pas. Quelqu'un qui serait handicapé, etc., il pourrait se contenter de faire ça. Mais ce qu'on fait, on fait des va et vient trois fois. Dans chacune des quatre directions cardinales, vers le haut et vers le bas. Donc, dans les six directions. Ce que nous, on appelle en trois dimensions. On appelle trois dimensions parce que nous, on a des nombres négatifs. Mais quand on n'a pas de nombres négatifs, il faut six dimensions. Six, faut six, parce que, faut six directions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À quoi on joue exactement? Bon, c'est pas très clair. Mais Rachid, lui, il nous dit que ce qu'on fait, c'est que on repousse les mauvais vents et les mauvaises pluies et on appelle envers nous les bons vents et les bonnes pluies. En d'autres termes, on gère la météo. Donc, les Juifs ils reculent devant rien, ils prétendent qu'ils gèrent la météo. Le pire, c'est que c'est vrai. Donc c'est ça donc vous voyez, ça a à voir avec l'eau aussi. Alors il y a beaucoup de choses. Il y a ces histoires de pluie, il y a les libations d'eau. Puiser cette eau, etc. Il y a le fait qu'on est jugé là, sur l'eau. Alors, sur quoi? Et avec ce qu'on a vu, l'eau, ça correspond au Lamaba. Parce qu'effectivement, Soukhot, c'est branché sur Olam HaBa. Y a trois moments, si vous voulez, dans l'histoire juive. Il y a la sortie d'Égypte, il y a Matan Torah, et il y a le but de la création, c'est Olam HaBa. Comme le Messie de Sharim a écrit, Kadosh il a créé le monde, il a créé un monde de jouissance. Olam Haba. Et le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est fait pour que la jouissance soit complète. Cause de fameux pain de la honte, Zaman de Kisoufa, pour que la jouissance soit complète dans Olam Haba, nous, on travaillons de telle sorte que Hachem puisse nous donner ce qu'il veut de toute manière nous donner, sous forme de salaire, de telle sorte que nous puissions l'accepter sans avoir honte de recevoir. Donc, ça a à voir avec la fin des temps, ça a à voir avec Olam Haba. À Soukhot, dans la fête de Soukhot, comme dans toutes les autres fêtes, il y a des korbanot spécifiques. Comme il y a des korbanot Shabbat, Rosh Chodesh, des korbanot pour Pessah, Shavuot, et Soukhot aussi. Mais en plus des korbanot standards, on peut parler comme ça, il y a à Soukhot quelque chose de tout à fait particulier qui est au total, sur tous les jours de Soukhot, on aura amené 70 taureaux pour les goyim. Pourquoi on apporte des taureaux pour les goyim? Un korban, c'est une procédure de rapprochement. Korban, ça ne veut pas du tout dire sacrifice, ça veut dire rapprochement. C'est-à-dire, je me sens éloigné, donc je veux me rapprocher, et la Torah m'a dit comment je pouvais me rapprocher par le biais d'un korban. À la fin des temps, on passera par d'abord les temps messianiques. Mais le Mashiach, il ne vient pas seulement pour les Bnei Israël. Quand le Mashiach viendra, il vient pour l'humanité tout entière. Le travail que nous faisons, nous, Bnei Israël, est un travail que Avraham Avinu a pris sur lui. Quand Hachem a créé l'homme, il lui a donné une tâche. Il avait une chose à faire. Adam n'a pas fait ce qu'il aurait dû. Et du coup, la tâche a incombé à la totalité des descendants d'Abraham, des descendants d'Adam Rishon, ce qu'on appelle l'humanité. Et l'humanité a refusé, s'est disqualifiée en faisant la tour de Babel, dans laquelle ils ont montré, on n'en a rien à faire de la loi d'Hachem, on ne veut pas travailler pour lui, on veut se faire un nom à nous, etc. Du coup, en fait, si on s'arrêtait là, Hachem aurait dû détruire ce monde et en reconstruire un nouveau. Comme Chazal nous dit que, avant de construire ce monde, il avait construit des mondes, construit, détruit, etc. Ça aurait été encore un monde supplémentaire de construire et de détruire. Mais à ce moment-là, émerge Abraham. Abraham, c'est un contemporain de la tour de Babel. Le chef de la tour de Babel, c'est Nimrod. Et Nimrod, c'est le roi qui jette Abraham dans la fournaise. Et donc, Abraham, il propose de faire le job. Moi, je vais faire le job. Moi, je vais faire les choses. Et quand j'aurai fait les choses, alors on dira, l'humanité a fait les choses. Je vais faire les choses au nom de l'humanité. Donc, au nom d'Égoïm aussi. Et donc, l'Égoïm, au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien que nous faisons les choses pour eux. Et du coup, ils nous en veulent pour deux raisons. D'abord, parce qu'on fait les choses pour eux. Et aussi parce qu'on ne les fait pas bien. Et donc, Abraham s'engageait, pourquoi accepter, l'a testé, il l'a accepté. Et quand on aura fait le job, les goïms, ils vont arriver aussi. Et donc, pour qu'ils y arrivent, nous faisons un effort, nous les rapprochons, nous apportons des corbanotes pour qu'ils se trouvent rapprochés, qu'ils soient plus à même de faire leur travail, enfin, de reconnaître Hachem, etc. Quand le Mashiach sera là, il faudra qu'ils reconnaissent Hachem, c'est-à-dire reconnaître finalement que ce que les Bnei Israël ont fait, c'était ce qu'il fallait faire. Ils ont une certaine dette de reconnaissance, bon, on verra. Et que ils vont comprendre que le monde à tout bénéfice que les Bnei Israël continuent de servir Hachem. Et du coup, nous, on va devenir les Kohanim de l'humanité. De même qu'il y a des Kohanim qui font un certain travail pour tout le clan d'Israël, parce que maintenant, on va changer d'échelle, les Bnei Israël, dans leur totalité, vont devenir les Kohanim pour l'humanité. Et l'humanité, comme nous, nous avons appris, voilà, nous entretenons les Kohanim. Les Kohanim, ils travaillent pas, je veux dire, à l'extérieur en dehors de leur fonction à l'intérieur du Beth Amikdash et en dehors du fait qu'ils doivent étudier et enseigner. Et pour le reste, il faut bien les nourrir, il faut bien qu'ils se mangent, qu'ils mangent. Donc c'est à la charge du clan d'Israël. Les goïms, ils vont vouloir nous entretenir à condition que nous étudions, nous travaillons pour Hachem, au nom de l'humanité. Ça continue. Conséquent, il y a ce travail qui est fait pour les Goïm à l'époque Soukhot, parce que Soukhot, c'est en rapport avec la fin des temps, avec le Olam Haba. C'est pour ça que on fait ces libations d'eau, etc., parce que tout ça, c'est réminiscent de Olam Haba. Pourquoi l'eau? À cause de ce qu'on a dit sur l'eau, comme étant le pendant de Olamaba pour les Bnei Israël. Donc on fait des choses qui sont en rapport avec Olamaba, Asukot, toutes sortes de choses. Genre de choses qui ont à voir avec l'eau. Oui. Olamaba, c'est le lieu où il n'y a pas de Bechira. C'est-à-dire, c'est le lieu où l'homme n'est pas l'homme tel qu'on connaît, il n'accède pas à ce lieu-là. Le Olamaba n'est pas pensable dans l'Amazé. On ne peut pas le penser, pas du tout, parce que ça nous dépasse complètement, parce que nous, nous sommes des êtres de Bechira et nous n'avons aucune idée de ce qui se passe dans le monde qui s'appelle le monde de la Yédia, où on sait les choses absolument clairement. L'eau, c'est le non-monde. De même manière que Olamaba, c'est le non-homme. Olamaba, c'est pour l'homme une situation où l'homme, il n'y est pas, il n'accède pas. Et ben, c'est pas mal, je veux dire, comme comparaison. Non, mais l'eau est le milieu dans le monde. Il y a de l'eau et il y a la terre sèche et il y a l'eau, en gros. L'océan et la terre sèche. Sur la terre sèche, l'homme peut vivre. Dans l'eau, il ne peut pas. C'est le lieu du monde dont l'homme est exclu. Alors, si on fait... Pardon, pardon? Oui, à part ça, l'eau est vitale sous forme, mais pas un lieu dans... C'est pas un lieu dans lequel on peut vivre, mais avec lequel on doit vivre, c'est-à-dire qui nous est nécessaire pour vivre. Ben, d'une certaine manière, on peut dire, Olamaba, c'est aussi un lieu où l'homme n'accède pas, ne peut pas y penser, mais d'un autre côté, c'est aussi, comme ça, Messie Adéchari nous a expliqué, c'est ça le but du monde. Donc on a besoin de ça, comprendre à quoi on joue, qu'est-ce qu'on fait ici. Elle est seulement là pour faire un lien entre l'homme et le monde, pour dire que ce qui est non-monde est aussi, et correspond à quelque chose qui est non-homme, c'est-à-dire le monde, on a ma bac. C'est-à-dire le monde de la Yédia en opposition au monde de la Bechira. Alors, on a, si vous voulez, quelque chose qui est intéressant, c'est que finalement, c'est grâce au veau d'or, si on peut parler comme ça, que donc un ratage, finalement, c'est ce ratage qui fait que nous sommes là. si le monde n'avait, si on n'avait pas raté, qu'est-ce qui serait passé? Le monde était terminé. On a accepté la Torah et c'était terminé. De la même manière que si Adam Arishon n'avait pas mangé enfin, prématurément le fruit en question, qu'il était arrivé, il a tenu quelques minutes de plus, il serait entré dans Shabbat. Shabbat, c'est Olam Haba, c'est fini, le monde est fini. Donc, quelque part, les ratages font que nous sommes là. Il y a peut-être des gens qui diront, malheureusement, qu'ils ont raté, parce que sinon, on ne serait pas là. Mais en vérité, la question n'est pas celle-là exactement, c'est que si Adam Arishon avait réussi, nous serions une partie d'Adam Arishon. De même que si le clan Israël n'avait pas fait le veau d'or, ben, nous étions en puissance dans les gens qui étaient au Sinaï. Nos Neshamot étaient là-bas. Tout le monde était au Sinaï. Donc on était tout, on aurait existé différemment. Voilà, donc le Sukkot, c'est à la fois quelque chose qui a à voir avec la Kapara, parce que la Simcha, de la caractéristique de Sukkot, la Simcha, c'est une autre façon d'obtenir la Kapara. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, c'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose qu'on comprend vraiment. Parce que la Simcha, comme on a dit, qu'on a vu ça ensemble, on peut pas prescrire la Simcha. Et pourtant, la Torah nous l'a prescrit. Marqué de Samarta. Samarta Bechagecha, Samarta avec Bikurim, la parfum de Bikurim, c'est marqué de Samarta aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas. Quand j'étais jeune, j'ai reçu une fois, je ne sais pas comment la personne avait eu mon adresse, j'ai reçu, c'était le début du LSD, la drogue LSD. J'ai reçu une brochure de quelqu'un qui expliquait que on ne pouvait pas faire vraiment les mitzvot sans la simcha et que par conséquent, il fallait prendre du LSD pour être besimcha. La vérité, c'est que quand j'ai reçu ça, je ne savais même pas ce que c'était que le LSD. Je n'étais pas partie des gens qui étaient au courant. Il n'y avait pas beaucoup de monde à ce moment-là qui était au courant. J'étais vraiment très jeune et j'ai lu ça, je ne comprenais pas ce qu'il me voulait. Je ne savais pas comment il avait eu mon adresse. Je venais des États-Unis. Ces personnes aux États-Unis qui avaient dû regarder au hasard, je ne sais pas. C'est arrivé, puis fermé. Bon. Oui, c'était quelqu'un avec des kippot, qui dit, mais pour la mitzvah, c'était. Enfin, je ne m'y suis pas mis. Le temps, je n'ai pas goûté du tout à LSD. Après, j'ai appris où on pouvait en s'en procurer, mais bon, je n'ai pas essayé. Ça va me manquer, quoi. Pardon? Mais le principe, c'est le même que le principe qui consiste à se saouler un peu pour être en. C'est pas ça, c'est pas ça la Simcha qui est demandé. La Simcha qui est demandé, c'est plus subtil, mais croyez va expliquer ça au fur de Chumash, mais peut-être c'est lié, je sais pas. Par exemple, la Simcha de Bikurim, il doit très jouir avec les Bikurim. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez quelqu'un qui a les premiers fruits de son travail. Il se réjouit. Naturellement, il se réjouit. Et là, la Torah lui dit, cette joie-là est une joie naturelle. C'est la joie qu'a tout propriétaire qui a finalement engrangé, là, ils ont engrangé c'est fini, c'est Soukhot, le blé, les fruits, on a pressé le raisin, on a pressé les olives, on a tout. Faut pas ne pas être content. On te dit, tu es en joie à ce moment-là. Alors utilise cet élan et mets-le au service du spirituel, en fait. C'est ça qu'on te dit. Le Samarta, le Chagecha, tu vas utiliser la Simcha qui est là. Parce qu'elle est là naturellement. Dérive là. Envoie-la vers plus haut. Je ne peux pas te dire, à partir de rien, est-ce que je vais sauter dessus? Comment je vais faire pour me réjouir, quoi? C'est ça que les gens ont du mal, là. Les gens qui s'imaginent qu'il faut faut s'exciter, mais c'est de l'excitation, c'est pas de la joie. Pas en tout cas la joie que la Torah demande. Parce que pour terminer, dans la fête, je vous ai dit qu'il y avait des danseurs, et la Gemara, elle dit que ceux qui dansent, c'est pas les petits jeunes, c'est les vieux qui dansent. Les vieux dansent, et la danse, c'est une ronde. Pendant très très longtemps, les Juifs dansaient sous forme de ronde. Il y avait des gens, comme on le raconte de David Ameller, etc., qui dansaient à titre individuel, mais qu'une collectivité danse et chacun danse pour soi, de mon temps, ça n'existait pas. De mon temps. Je parle de temps qu'on ne connaissait pas, mais d'accord, il y a très longtemps, ça n'existait pas. Les Hassidim, ils ont toujours dansé uniquement en ronde. Et le modèle danser en ronde, il vient de ce que on nous dit qu'à la fin des temps, quand Kadosh Baruch Hu, il fera une ronde avec tous les tzadikim, et lui, il sera au milieu. Pourquoi au milieu? Parce que comme ça, tous les tzadikim seront à la même distance qu'Hachem, d'Hachem, les uns que les autres. Pas de jalousie, qui va marcher devant, etc., comme l'avait demandé Yerovam, quand Hachem lui a dit, si tu ne fais pas les veaux d'or, nord et au sud de ton royaume, tu vas pouvoir marcher, David, enfin moi, dit Hachem, David et toi, et lui, il demande, mais qui va marcher devant? Il dit, si tu demandes, c'est pas toi. Il n'a pas dit qu'en réalité, personne n'allait marcher devant. Vous allez être satellisé, c'est un noyau d'hydrogène, un atome d'hydrogène, satellisé autour de Hachem est au milieu, et les deux sont sur la trajectoire, sur le sol. Personne ne marche devant. Pas devant. C'est le gros avantage. Alors, à la fin des temps, pardon, à Simchat Beit HaShoeva, tout le monde danse. Et quand ils dansent, ils chantent. Il y avait de l'orchestre aussi, mais eux, ils chantent. Et c'est intéressant, ils sont dans une ronde, ensemble, et ils chantent pas tous la même chose. Il y a deux chants. Il y a un chant dont les paroles sont Heureuse notre vieillesse. Non, heureuse notre jeunesse qui n'a pas fait honte à notre vieillesse. Ce sont les gens qui étaient les tzadikim depuis toujours. Et puis il y en a d'autres qui chantent Heureuse notre vieillesse qui a été mechaper sur notre jeunesse. Et c'est des balais de tchouva. Mais c'est des balais de tchouva qui sont devenus des skénim, etc., qui dansent avec les autres. Il n'y a pas deux rondes différentes, une ronde pour les balais de tchouva et une ronde pour ceux qui ont toujours été. Ils dansent ensemble. Mais chacun chante ce qu'il a chanté. C'est ça la joie, l'expression de la joie. La joie, ça va aller, ça y est. On a quelque part réussi. On a réussi depuis toujours.